les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans sa spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes une question juridique essentielle. Aujourd'hui, M. Bertrand Dumaret, conseiller d'État, président du think tank Fides, Forum sur les institutions, le droit, l'économie et la société, et chercheur associé au CRDP de l'Université Paris-Nanterre, dessine les contours de la révolution copernicienne du droit public de la régulation économique. Quatrième épisode, la révolution copernicienne de la régulation, aspect théorique.
Bonjour chers auditeurs d'Amicus Radio. Je suis ravi à nouveau d'intervenir aujourd'hui sur le thème du droit public de la régulation économique. Et nous allons aborder aujourd'hui le cœur de notre sujet, à savoir cette révolution copernicienne qu'a produite la régulation, à travers les trois thèmes suivants. Premièrement, la cohérence du modèle de libéralisation européen. Deuxièmement, différents modes de régulation. Et enfin, le difficile consentement français à la régulation indépendante. Il faut tout d'abord retenir l'extraordinaire cohérence interne du modèle et donc du régime juridique de libéralisation en vertu du droit européen. C'est un modèle uniforme qui sera appliqué à travers l'ensemble des secteurs collectifs qui ont fait l'objet de cette politique et suivant un paradigme d'une très forte cohérence interne que je vais essayer de vous décrire. Premièrement, l'acte unique de 1986 donne un objectif à ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne, la création du grand marché unique, sans frontières, et l'acte unique confère un mandat à la Commission pour ce faire, et donc une compétence juridique. Les traités lui donnent des instruments, et en surmontant les distinctions nationales entre administration et entreprise, un mandat et des instruments donc pour la Commission, pour lutter contre les barrières à l'entrée des marchés existants et même créer de nouveaux marchés. Les modalités de libéralisation des secteurs administrés, qui sont pour la plupart à l'époque les secteurs de réseau, de services collectifs en réseau, que la Commission a choisi devaient être naturellement la plus favorable à l'entrée de nouveaux entrants, de nouveaux opérateurs sur ces marchés. Et donc, le modèle qui se développe alors va commencer par une désintégration verticale des grands monopoles publics, ce qu'en droit de la concurrence et en français dans le texte on appelle l'unbundling, c'est-à-dire la désintégration des différentes étapes de la production de la valeur ajoutée. Ceci au moyen d'un instrument administratif qui doit être le plus favorable, le plus perméable à la concurrence, qui est donc un régime d'autorisation délivré à tous les opérateurs capables de réunir un certain nombre de conditions, ceci pour en faciliter l'entrée. Pour gérer ce régime d'autorisation, il faut une autorité qui puisse les délivrer, en surveiller l'exécution, et c'est l'autorité de régulation indépendante qui apparaît. Comme les États sont souvent opérateurs ou propriétaires d'opérateurs qui subsistent sur ces marchés, il faut évidemment que ces régulateurs soient indépendants, mais il faut également que ces opérateurs dominants, anciennement publics, ne puissent avoir d'avantages comparatifs et donc se comportent comme des entreprises privées. Quel est le meilleur moyen pour qu'une entreprise se comporte comme une entreprise privée? Eh bien, c'est de la privatiser. Et d'ailleurs, c'est aussi un moyen de lutter contre les aides d'État et contre les conflits d'intérêts. Et l'on voit donc ce modèle se développer tout au long des années 90, début des années 2000, dans l'ensemble des secteurs, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et l'évolution est saisissante de la demoiselle des PTT, du 22 à Asnières de Fernand Reynaud, jusqu'à l'introduction en bourse de France Télécom, devenue maintenant Orange.
Juste un mot de la bourse, puisque vous m'en parlez. En 62, elle était exagérément bonne. En 66, elle est exagérément mauvaise. Mais vous savez, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille.
Alors, le général de Gaulle exprimait dans son vocabulaire très personnel et de l'époque une certaine vision de la régulation, finalement. Cette régulation, elle peut prendre plusieurs formes. Et nous pouvons en voir différents modèles qui vont de la régulation que je qualifierais de spontanée, voire de l'absence de régulation. jusqu'à une régulation hiérarchique par un régulateur indépendant. Qu'est-ce que c'est que la régulation spontanée ou l'absence de régulation ? Eh bien, ce sont par exemple des modèles d'organisation du marché dans lesquels l'État n'intervient pas, mais la régulation peut être, par exemple, exercée à travers l'information. C'est toute chose égale par ailleurs, ce qui était en germe ou la théorie implicite de la régulation par les agences de notation sur les opérateurs boursiers. Ça peut être la régulation par le marché lui-même, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. On en connaît par exemple une forme à travers les organisations professionnelles qui vont recevoir mandat de la part de la puissance publique d'exercer un contrôle sur le fonctionnement du marché dans leur secteur, dans leur profession. Mais ceci avec un certain nombre de conditions, notamment des conditions qui sont très strictes en ce qui concerne l'entrée des opérateurs sur ces marchés. On connaît l'ordre professionnel des notaires, des avocats, des architectes, etc. Ça peut être la régulation avec le marché, sous forme de co-régulation, dans lequel les professionnels et l'autorité publique vont co-construire ensemble les textes et la mise en œuvre de cet encadrement. Ce peut être également la régulation du marché sous une forme hiérarchique. Hiérarchie directe, avec ce qu'on connaît bien en France et que l'on désigne par le terme de tutelle, dans lequel un ministère, un organisme public, va exercer un encadrement direct sur les agents du marché. Mais ça peut être une régulation hiérarchique indépendante, sous forme de ces autorités de régulation indépendante qui ont commencé à se développer à partir du milieu des années 90. C'est le système préféré en France, car l'autorégulation, il faut le souligner, a parfois conduit à des catastrophes.
Your view of the world, your ideology was not right. It was not working.
That's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well.
I will start the questioning. Where do you think you made a mistake then?
I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders and the equity in the firms.
Vous venez d'entendre Alan Greenspan, le président de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, en 2008, qui s'exprimait sur les origines de la cause de la crise financière de 2007-2008. Et il reconnaît qu'il a fait une erreur en pensant que l'autorégulation des banques, des intervenants financiers, était suffisante pour assurer l'équilibre du marché. Alors, nous allons voir en troisième lieu la façon dont le système juridique français a consenti à la régulation indépendante par ses autorités de régulation indépendante. C'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui va acclimater en France le régime des autorités de régulation indépendante à partir ou en se fondant sur le régime des autorités administratives indépendantes et notamment de la première de celles-ci, la CNIL, la Commission nationale des informatiques et libertés, créée en 1978. À travers plusieurs décisions, mais dont les plus importantes sont celles du 17 janvier 1989 relatif au CSA et celles du 28 juillet 1989 relatives à l'époque à la Commission des opérations de bourse, le Conseil constitutionnel va véritablement créer un régime juridique des autorités de régulation indépendantes. Ces autorités sont marqués par des compétences qui doivent être limitées, bornées, encadrées à des domaines très particuliers. Une compétence qui s'exerce de façon semi-autonome, puisque les principales décisions doivent continuer à être homologuées par le titulaire du pouvoir normatif réglementaire, à savoir le Premier ministre et par délégation les ministres. Et puis, ces autorités disposent d'un pouvoir de sanction, mais un pouvoir de sanction qui ne peut entraîner, qui est seulement un pouvoir de sanction administratif, et donc qui ne peut entraîner des peines de privation de liberté. Le pouvoir a donc quitté les directions des ministères pour un couple entre formé par le ministre et par le régulateur. Et le Parlement devient en quelque sorte un régulateur en dernier ressort lorsqu'il doit prendre ou adapter les dispositions législatives qui vont créer ces régimes juridiques. Mais il faut le souligner, les conditions mises à la gouvernance des régulateurs ont entraîné un régime d'indépendance extrêmement strict qui a amélioré, toute chose égale par ailleurs, le processus de décision publique. Il y a une pédagogie de la transparence des décisions publiques qui s'impose aux régulateurs. Les conflits ne sont plus arbitrés parfois derrière des portes capitanées, mais jugés par le juge administratif. Et la consultation, qui devient une obligation pour les autorités de régulation, devient un mode de gouvernement. Chers auditeurs d'Amicus Radio, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.